You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Au pire, tu les dis les numéros au début de l'émission.
Et bonsoir et bienvenue à tous en direct du centre d'animation Saint-Pierre avec comme d'habitude un petit quart d'heure, même 17 minutes pour être exact, de retard. C'est la dernière émission de cette saison.
Bien voilà. Cette année scolaire.
De cette année scolaire.
Girol saison 10.
C'est ça.
Épisode...
voilà, épisode 99.
Point avis.
C'est pas les 10 ans de la radio.
Point OGV, pardon.
Ripped by Girol.
Point OGA.
Enfin, toujours est-il que ça y est, c'est la dernière de cette saison et on va parler de trucs et de bidules. Alors, comme d'habitude, on a un programme qui s'est fait un peu à la dernière minute. Il faut juste dire à nos collègues du collectif de fermer leur bouche. On va rester poli. Et vérifier qu'ils ne nous pompent pas trop sur le réseau, parce que sinon on aura quelques petits soucis. Alors ce soir au programme, on va parler de la Bulgarie. Alors c'est rare, hein, on parle pas souvent de la Bulgarie chez Girol.
Bonne info, c'est moi qui l'ai tweeté d'ailleurs. J'ai retweeté un tweet à moi depuis l'autre compte.
C'est ça, plus Numérama et PC Impact qui en ont causé. Enfin, toujours est-il que ça a soulevé la petite communauté du logiciel libre. Voilà, on va parler jeux vidéo avec la sortie du tant espéré Day of the Tentacle, version remasterisée aujourd'hui même, disponible sous Linux. Ah, Antoine a une réaction muette.
Ah oui, on a un peu oublié de te balancer.
Là, ça y est, tu as...
Balance, man.
Non, je testais juste le micro, répondez.
D'accord.
Voilà, et puis on va se souhaiter de bonnes vacances et ce sera tout. On va peut-être, non, vous en pensez quoi? Ça fera une émission un peu courte.
Hein. Ouais,
j'ai
proposé
tout à l'heure, mais tu n'as pas retenu ma proposition, visiblement, de répondre together ensemble au fameux questionnaire que vous avez proposé.
Oui.
Voilà. Gaël a commencé à faire quelques réponses, mais après, tiens, je change de voix. Oups, faut pas que je rigole. Donc, il faut terminer de répondre à ce questionnaire, mais c'est vrai que les questions sont assez personnelles, je trouve. Donc, je pense que chacun peut avoir éventuellement son.
Je pense qu'on va reparler carrément du questionnaire pour inviter nos auditeurs.
Il faudra que tu l'affiches sur ton petit écran parce que là, moi, je m'en rappelle pas.
Alors, plus qu'un questionnaire, je crois que c'est un sondage.
Oui, un sondage.
Ah oui, c'est un sondage sur les gules. Groupe d'utilisateurs de logiciels libres.
Exactement, on va chercher ça sur Linux.fr. Voilà, notre intervention de ce soir sera comme d'habitude ponctuée par quelques petits morceaux de musique libre ou permissive. Voilà, on va repasser des trucs qu'on a déjà passés. Hein. Vous nous connaissez, on ne sait pas très bien se renouveler question musique.
Ah, et puis j'ai une petite anecdote. Alors là, c'est plus que libre, là, c'est le domaine public. Ce sera très court, mais on pourra en parler à la fin. Si vous...
Voilà. Eh bien, écoute, Gaël, justement, je propose qu'on commence par la petite anecdote.
Alors,
on a le temps, soyons fous.
Chose toute bête, ma chère et tendre épouse me demande par email, pourrais-tu me trouver ce film? Par quel moyen, elle ne précise pas. Mais... Donc, un vieux film, parce qu'en fait, c'était un livre que les enfants avaient lu, qui le titre en français est Une incroyable histoire, par John Will Irish, ou quelque chose comme ça, bref. Et donc, il y avait un film, une adaptation qui datait de 1949, qui s'appelle The Window. Et chose incroyable, je cherche... Alors, il existe en DVD, donc je le trouve, c'est dans une édition un peu collector, enfin pas collector, mais c'est des films un peu rares, etc. Donc, à 50€, sur tous les, que ce soit Amazon, la Fnac, etc. Donc, bon, 50€ pour juste diffuser un film aux gamins à la fin de l'année scolaire, c'est peut-être un peu cher. Du coup, bon, mais je me rabats sur d'autres, je sais pas, de la VOD, de la SVOD, d'autres moyens plus ou moins légaux. Et en fait, à force de chercher, je tombe tout simplement sur un lien de archive.org. Et il venait de tomber dans le domaine public un mois plus tôt.
Est-ce qu'il s'est fait mal en tombant?
Non, par contre, chose un peu triste pour moi, c'est qu'il n'était qu'en VO et il n'y avait pas de sous-titres français nulle part. Pas du tout. Donc je pense que je vais le sous-titrer moi-même. Bon, du coup, j'ai réussi à lui trouver, mais elle l'aura pas diffusé. Mais par contre, alors, c'est intéressant, un film de 1949 dans le domaine public.
Et c'est un film américain ou un film... D'accord.
Oui, oui. Ça m'a d'autant plus étonné.
Mais en fait,
c'est un peu de la série B, mais il n'est pas mauvais apparemment. Enfin, c'est plus un moyen métrage en plus. Je pense qu'il fait qu'une heure.
Ça peut vite tomber, comme on dit, malheureusement.
Oui, pour peu qu'une boîte d'édition oublie de renouveler les droits, c'est ça.
Oui, mais oui, parce que chez eux, c'est un peu particulier à ce niveau-là, et c'est un peu à géométrie variable. Après, ça ne veut pas dire que les contenus, par exemple musicaux, sont dans le domaine public. Hein, c'est faut bien faire la différence entre le film lui-même et les contenus du film.
Oui, enfin, bon, mais a priori, s'il était disponible sur archive.org, je pense qu'ils ont pris le temps de vérifier tous les...
Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de science exacte.
En parlant de contenus musicaux, sur une petite anecdote...
numéro 2.
Copyright Madness, on va dire, comme reprendrait Next Impact. Oui, c'est vrai. Assez marrante que j'ai vue, je ne sais plus où d'ailleurs, mais la chanson Happy Birthday to You était protégée par le droit d'auteur depuis...
tu ne savais pas ?
Ouais, non. Et bien apparemment, c'est tombé, ça. C'est tombé, ils ont dû rembourser même tous les gens qui avaient payé depuis 30 ans.
Ah bon, c'est tombé. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a eu, il y a 2-3 ans, peut-être plus, je ne sais plus, un concours organisé par Free Music Archive avec... Free Music Archive tout seul. Pour demander à des gens de créer une musique, joyeux anniversaire, mais libre.
Oui.
Voilà, donc pour remplacer...
Il y a la version Stevie Wonder, je crois, aussi qui est passée mal. Happy birthday.
C'est ça, voilà.
Happy birthday. Attention, l'assassin est à la porte. L'assassin est à la porte.
Donc voilà, c'est.
Mais oui, non, la fameuse ritournelle Happy birthday to you.
Bon, Warner est à la porte.
Non, c'était détenu par une société qui faisait que ça. Enfin, c'était des sortes de pseudo-ayants droit qui a renouvelé. Et ils faisaient taxer. En fait, dès que c'était employé dans un film ou n'importe quoi, ou un événement où il y avait plus que le cercle privé. Mm-hmm. Il faisait payer.
Voilà, après, là-bas, ça se renouvelle.
Je crois que sur 30 ans, ça a ramené quand même 14 millions de dollars, quelque chose comme ça.
Ça me semble peu.
Oui, je sais pas. J'ai vu se passer ce chiffre. Mais bon.
En fait, ils se sont fait chier pour si peu, merde. Du coup, ils ont foutu la clé sous la porte. Ils ont dit, allez, laissons ça, on s'en va.
Non, mais c'était. Du coup, et une chose intéressante, c'est que c'est du coup ça a été rendu caduque par un tribunal, ce pseudo droit sur ces chansons, cette chanson, et du coup ils ont dû rembourser une bonne partie des gens qu'ils avaient spoilé au préalable, parce qu'en fait ça a été inventé par un couple de sœurs, deux sœurs, donc au début du siècle dernier, enfin quelque chose comme ça, je sais plus.
Bon, merci beaucoup Gaël pour ces deux petites anecdotes. Je vous propose une petite pause musicale et on parlera de la Bulgarie ensuite. Ah ouais, il faut préparer le sujet, comme on n'a rien préparé.
J'ai lu pas mal et j'ai même parcouru leur GitHub, mais on en reparlera.
On en reparle tout à l'heure. On va s'écouter pour l'instant Robotnica sur Radio Girol avec Last Ninja 2.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station. We'll be right back. Et voilà, c'était Robotnica, c'est de l'excellente musique. Ils sont en plus français, de Lyon, me semble-t-il. Ça avait été déniché par Clémence, rappelez-vous. On revient du coup vous parler de la Bulgarie, et oui. Ah oui, image. Parce que figurez-vous que si notre gouvernement essaye de favoriser péniblement, ou du moins nous faire croire qu'ils essayent de favoriser péniblement le logiciel libre, la Bulgarie, c'est tout autre chose. Là, ils tapent du poing sur la table et ils disent que ça y est, maintenant, dès qu'un logiciel est développé
pour ou par le
gouvernement bulgare, eh bien, ça doit forcément être de l'open source. Il n'y a pas à tergiverser. Alors, bien entendu, on ne parle pas d'acheter une suite bureautique ou un système d'exploitation libre. On parle vraiment de développement spécifique réalisé pour l'État ou les collectivités bulgares. Mais c'est quand même une excellente nouvelle pour les défenseurs du logiciel libre.
Et c'est aussi un signe de transparence au niveau de plein d'outils, que ce soit, par exemple, le calcul des impôts, s'il y a des élections, même si c'est pas top, les votes électroniques. Non, d'autres outils qui sont, pour le coup, on a vraiment, pour qui veut contrôler et vérifier, il y a une certaine volonté de transparence.
Alors, on peut parler de ça, mais aussi on peut parler du coup de permettre aux citoyens bulgares qui sont suffisamment chevronnés de déceler des bugs, de participer à l'amélioration. Et si on parle pour les collectivités territoriales, de pouvoir réutiliser du code qui a été développé pour le voisin, par exemple.
Et du coup, on se dit qu'on aimerait bien avoir ça en France. Et moi, je verrais même bien des réductions d'impôts. Enfin, des bug bounty dans les récompenses seraient des réductions d'impôts.
Et je vous jure qu'il serait nickel les... Enfin bon, on pourrait aussi assister à des dérives. Je fais semblant de corriger un bug, j'en crée 4 dans la foulée, hop, je les corrige aussi et paf, plus d'impôts à payer.
Et donc, ils ont déjà ouvert leur GitHub, du coup, si j'ai bien compris. Donc, on est certain que ce n'est pas juste un effet d'annonce. À surveiller, je pense, dans les prochains mois, voir s'il y a vraiment des choses qui sont publiées, parce qu'évidemment, ça n'est pas rétroactif. Les anciens projets ne vont pas être passés en open source dès à présent.
C'est ça. Après, les différents articles qui ont été écrits à ce sujet parlent de la création carrément d'une plateforme d'État de type GitHub ou GitLab pour pouvoir permettre effectivement à tout un chacun d'accéder au code source. Le texte est quand même relativement précis parce que de développement fait pour l'État ou les collectivités, et cela inclut non seulement les codes sources informatiques mais aussi tout ce qui est design et tout ce qui est afférent aux codes sources,
même les bases de données,
les bases de données,
la structure des bases de données, pas forcément le contenu.
Qu'est-ce qui les a motivés à lancer ça et à proposer ça? On sait pas.
Alors, c'est un conseiller ou je ne sais pas s'il est conseiller ou un ministre, j'ai pas trouvé l'information encore, mais c'est un conseiller au gouvernement bulgare qui est apparemment très impliqué dans l'open source. Je vais vous dire son nom parce que je l'ai ici. Il s'appelle Bozidar Bozanov. Voilà. Et effectivement, il y a carrément un GitHub qui s'appelle Government BG. Et qui dit « A place to publish and collaborate to on government-commissioned project ». Voilà. Commissioned, pardon.
OK.
Voilà. Donc, il y a déjà des choses qui sont mises en place. C'est de l'alphabet. Il y a des trucs, c'est écrit en cyrillique. Pour l'instant, il y a juste une personne qui y participe. Il y a pour l'instant quelques docs, des choses comme ça. Mais effectivement...
À surveiller donc dans les prochains mois.
À surveiller et voir si nous ne devrions pas de notre côté nous en inspirer et suggérer qu'au lieu de faire d'un truc, on dit où, parce qu'effectivement la France a déjà essayé de mettre en place des choses comme ça, dire c'est obligatoire et d'obligatoire ça devient assez extrêmement conseillé de conseiller.
Mais par exemple, pour le code du calcul des impôts, il a fallu qu'une personne aille jusqu'au tribunal et force les instances à vraiment publier. Ils ont été obligés du coup par la loi, mais ça s'est vraiment fait à reculons. Ça
a bien senti. Exactement, mais de toute façon, c'est le cas. On a en France, rappelez-vous, un organisme qui s'appelle la CADA, qui est censé donner aux citoyens qui le demandent des documents, accès à des documents administratifs. Et il y a pour l'instant une espèce de bataille en France qui dit est-ce que les codes sources des logiciels doivent être ou non considérés comme des documents ? Voilà, et est-ce qu'ils peuvent être protégés? Alors, il me semble qu'on avait répondu par l'affirmative, ce sont des documents et on peut les transmettre, mais après, où est-ce que ça en est? Je ne sais pas. Enfin, une oui. initiative encore à saluer quand oui. même.
Et on en est loin, comme d'habitude.
Et on en est loin, comme d'habitude.
Pour les mêmes motifs, enfin, les mêmes... Même blocage que d'habitude.
C'est ça. Nous avons un gouvernement qui, avant de se faire élire, dit des choses comme l'ennemi, c'est ma finance, c'est la finance, et qui, une fois élu et au pouvoir et bien installé,
fait l'inverse de ce
voilà,
qu'il a dit.
Mange dans la main des financiers. Donc, effectivement, on va pouvoir dire, ils vont pouvoir nous dire, on aime les logiciels libres, mais chez les autres. Voilà, c'était la petite info logiciel libre de la semaine. Non, il y en a une autre aussi.
Ah, on t'écoute.
Oui, les codes sources de la mission Apollo 11 est disponible sur GitHub aussi.
Oui, alors parce que moi j'avais, le PDF ou le TIFF, hein, je ne sais plus, qui était bien gros, du type bien gros,
voilà.
genre 90 mégas. scanné, vraiment scanné, tu vois, mais pas avec de l'OCR, quoi, pas de reconnaissance optique de caractère derrière. Donc,
c'était
pas hyper lisible, donc il y a un mec qui s'est tapé tout ça et qui a. Et d'ailleurs, qui a complété les parties qui étaient un peu effacées dans le scan, etc.
Ouais, ouais.
Voilà, mais c'est la NASA. Là, moi, ce que j'ai vu, c'est que la NASA directement a mis le code sur GitHub. Alors, je vais essayer de vous retrouver le lien parce que
c'est voilà, énorme.
Le code source de l'ordinateur de bord disponible sur GitHub. Et là, alors là, ce qu'il y a de plus fabuleux, c'est qu'il y a déjà eu une correction de bug.
Ça, c'est énorme. Comme quoi, ils auraient peut-être dû le faire avant. Et d'ailleurs, ils pourraient le faire pour les prochaines missions.
C'est ça.
Enfin bon, on dit ça, on dit rien.
Voilà, donc il y a déjà eu. Mais là, en fait, il y a déjà 46 commits à l'heure où je vous parle, donc c'est quand même pas mal. Et il y a 17 pull requests, donc ça veut dire que 17 développeurs extérieurs au projet ont fait des propositions d'amélioration du logiciel. Donc c'est assez fabuleux. Et dont un bug qui a été assez célèbre parce qu'il était carrément bloquant et il rendait même les choses plutôt périlleuses. Donc, c'est voilà.
Et alors, est-ce qu'ils pensent le faire pour Apollo 13? Parce que alors là, il va y en avoir.
Alors, on peut décemment penser que Apollo 13 utilisait des briques logicielles d'Apollo 11. Et donc,
voilà, donc quelque part, on va retrouver les.
Voilà, pourquoi?
Les bugs récurrents.
Après, pour rentrer dans le détail technique, il me semble que c'est une espèce d'assembleur amélioré. Enfin, c'est assez. Enfin, je pense qu'il faut quand même toucher un peu pour sa bille pour rentrer dans les. Faire proposer des pull requests sur ce genre de code. À part dire des fautes d'orthographe dans les commentaires, il n'y a pas.
Là, écoutez, alors je vais essayer d'ouvrir un fichier du coup pour voir. C'est des fichiers .s et
Après, on se doute bien qu'évidemment, c'est avant compilation et lui-même, l'ordinateur devait embarquer juste une sorte de code d'exécution.
Alors, ça ressemble quand même étrangement à de l'assembleur.
Oui.
Voilà, je pense que
c'est très proche. Hein, après,
c'est l'assembleur spécifique à la puce qui était sûrement embarqué, mais voilà, la NASA, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la NASA qui l'a fait, mais elle a au moins donné son aval, je suppose. Et donc, c'est disponible sur.
Du coup, grâce à ça, il me semble qu'il y a quelqu'un qui a programmé une sorte d'émulateur l'ordinateur. Enfin, l'ordinateur de bord de la
navette.
Pod, ouais, pas la navette réellement, le petit pod qui allait atterrir en fait, je pense.
Enfin, toujours est-il que c'est disponible et c'est déjà corrigé. Il y a déjà beaucoup de commits et en plus des pull requests. Donc, ça, c'est un projet qui vit. Alors, pour rappel, Apollo 11, ça date des années 60. Hein, voilà, il me semble même que j'ai vu un tweet d'une personne qui disait que c'était sa maman qui avait participé à la création de ce programme. Donc, c'est quand même assez fort. Voilà, je vous propose une petite pause musicale et on va parler jeux vidéo sous Linux juste après. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, Grâce et Volupté Ven-Ven, Louton, dans notre paysage politique actuel, c'est vraiment...
C'est raccord.
Voilà, c'est raccord. On est vraiment raccord.
Vénère, à quel point le reste est vert, quelle rage coule dans nos artères. Depuis trop longtemps, enfin. enfermé dans l'enclos. La peur des cris, les froids dans le dos. Alors on décide de rester car il fait plus chaud dans le troupeau. On marche au pas, rien ne nous étonne. Le temps passe, les années s'additionnent. De si nos vies sont monotones. On reste avec les autres, on ne sort pas de la zone. Différentes stratégies nous aident à supporter nos vies. Comme des chatons au fond d'un sac, on est au bord de l'asphyxie. On reste collé, on reste serré. On a peur de s'échapper. On se croit malin, mais on est con. On tourne en rond comme des moutons. On broute tous la même herbe, on trempe tous dans la même merde. On cherche une place dans le troupeau, on cherche à gonfler nos égos. Mais un mouton qui allait dans l'eau, on galère d'un con un peu partout. Pour se faire un nom, pour se faire une place, il se rapproche un peu des loups. Chaise.
Vrai.
T'as la raie qui pue.
Ah.
Vrai air.
Flipper de faire partie des précaires. Rien qu'à l'esprit grégaire. Qu'écoute sa mère, son père. Fait des courbettes à sa banquière. T'élèves des barrières. Voudrait posséder jusqu'à l'atmosphère. Du jour au lendemain dans la galère. Tu t'étonnes de la crise financière. Perdu des propriétés foncières. La vie n'est plus aussi hospitalière. Tes pensées prolifèrent et tes idées prospèrent. Contre l'État et les violences policières. T'as une technique singulière pour parler de la misère. Pousser les gens à des pratiques émeutières. Mais toi tu finiras dans les plus hautes sphères. Tu te casseras pas le cou comme caissière. T'es hurlé avec les loups.
Gentiment dans les clous.
Toujours une patte dans le troupeau. T'as bien fait la combat à tout niveau. Reste vif dans le coton. Pendant que nous luttons. T'es qu'un loup.
Rien qu'un louton. Accepté par les loups, la tête haute évidemment, il renie du tout au tout. Trop flatté par cet honneur, il accepte le sale labeur, de réprimer, d'opprimer, il arbore avec fierté le goût de pouvoir qu'on lui a laissé.
Pourquoi tu t'abaisses à rentrer tes fesses dans tes affaires CRS, à éteindre la moindre liesse populaire, à mettre à chaise les soulèvements minoritaires, à écouter le gouvernement, à imiter les loups, leurs hurlements. Quand du coup tu collabores consciemment, tu corrobores violemment la répression du troupeau oppressé, l'aliénation des moutons déjà rabaissés, humiliés, angoissés et tabassés. T'as hurlé avec les loups, tu restes gentiment dans les clous. On supportera les coups de bâton, mais on se rappellera ton nom. T'es qu'un louton,
rien qu'un louton, un louton. Je crois que t'es un antilope, t'es un antilope. Benoît XVI.
Et nous voilà de retour sur Radio Girol. Gaël, on est de retour. On reprend. Ça marche. On y va.
Rebonjour.
Du coup, Antoine vient là.
Je vais meubler le temps que Gaël s'assoie, tout ça.
Alors, tant que tu es là, Antoine, est-ce que tu as connu ou est-ce que tu connais toujours un jeu qui s'appelle Day of the Tentacle ?
Et je crois que j'ai joué quand j'étais petit, ouais.
T'étais petit, c'est ça, tout à fait ça. Parce que Day of the Tentacle est un jeu qui est sorti en 1994. C'était à l'époque la grande mode des click and point, ces jeux d'aventure où il suffisait de cliquer pour amasser des objets et les utiliser à bon escient. Et Day of the Tentacle est sûrement le meilleur click and point jamais réalisé au monde.
Et c'est un décor qui est aux États-Unis, non ? C'est ça ?
Ça se passe aux États-Unis dans un décor très cartoon qui pourrait rappeler les Tom et Jerry des années 70, très inspiré par effectivement Chuck Jones, le cartooniste qui a repris les Tom et Jerry dans les années 70. Voilà, tout ça a été fait par des gens par LucasArts, qui était une branche de LucasArts. Enfin, de Lucas, LDT, donc la boîte qui faisait « Je suis ton père
». Ça commence à devenir vieux, en fait. Hein.
C'est ça.
Ça pourrait être Disney, finalement.
C'est exactement ça. Et du coup, c'était un jeu qui vous mettait dans la peau de trois personnages différents, un qui était dans le passé, un dans le futur et un dans le présent, et qui devait coordonner leurs mouvements à l'aide du chrono WC pour pouvoir empêcher une tentacule qui avait bu une potion... empoisonné, de diriger le monde. Ouais, voilà, ça. C'était beaucoup d'humour. Sûrement que les mecs qui ont développé ça, ils se sont fendus la poire. Sauf que plus de 20 ans après, 22 ans après, le voilà de retour. D'ailleurs, il était de retour le 22 avril sur toutes les plateformes, sauf sous Linux. Et pourtant, le studio qui le développe, à savoir Dub, enfin qui développe le, je dirais, la version remasterisée Double Fine, qui emploie, enfin, dirigé entre autres par Tim Schafer, qui faisait partie de l'équipe originale, a décidé de le refaire, voix remasterisée, mais voix originale, dessin remasterisé entièrement, redessiné entièrement. Et...
Ah, redessiné carrément, parce qu'on dit oui, oui. Remasterisé en fait, quelles sont les techniques possibles en fait ? Moi ça m'intéresse un peu de savoir ça.
Alors,
est-ce que c'est, tu peux faire une sorte de lissage, c'est-à-dire augmenter le... Enfin, pas vraiment, si tu dois rajouter des... Comment dire, une résolution plus haute.
Alors là, ils ont carrément décidé de redessiner le tout. Ouais, alors,
ils sont partis vraiment de zéro en fait.
Non, ils sont partis des dessins originaux. C'est très important, surtout pour les aficionados.
Mais ça, c'est d'un point de vue graphique, mais d'un point de vue technique.
Ils ont refait un moteur. Ils ont prévu pour que le jeu puisse fonctionner sur des plateformes tactiles, entre autres. Alors pas pour PC, mais plus pour PlayStation Vita, puisqu'il est aussi sorti sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. Une interface qui est un peu plus maniable. Ils ont refait tous les graphismes pour qu'ils s'adaptent en 16:9. Voilà. Ils ont redessiné entièrement tous les décors. Toutes les animations ont été refaites, mais en gardant quand même la trame originale. Ce qui fait que ça donne un jeu... Oui.
Non, en fait, j'essaie de placer un coucou à un pote à moi qui est dans le Nord, qui s'appelle HCZ, mais j'arrive pas à le placer dans ta phrase, donc c'est pas grave. Comme ça, c'est fait. C'est placé.
C'est ça. Coucou HCZ, alors, du Nord. Et donc, voilà. Et il est sorti aujourd'hui même. Il a été réalisé par un développeur australien, me semble-t-il. Voilà. Alors... On a l'habitude avec, normalement, le studio Double Fine qui est à l'origine de la version remasterisée. C'est le studio à qui on doit notamment l'excellent The Cave, qui pourrait aussi faire penser à un click and point, qui supportait Linux Day, enfin pas tout à fait Day One. Ils ont mis aussi pareil un mois et demi, deux mois. Ils ont porté pas mal de leurs jeux sous Linux dès que Steam a été annoncé sous Linux.
Ouais. J'en ai un, c'est... Comment il s'appelle ? Avec Jack Black.
Oui, Brutal Legend.
Brutal Legend.
Voilà. Double Fine. C'est ça. Tu le fais trop trop bien. Il y a Jack Black dedans, donc ouais. ça peut être qu'un bon jeu. Voilà, ils ont fait Costume Quest aussi, le ouais. fameux Broken Age. Voilà, pour qui ils ont réussi à amasser pas mal de pognon grâce à Kickstarter.
Et Psychonauts, donc c'est celui qui a fait des.
C'est aussi du cerveau torturé de Tim Schafer, patron de Double Fine, qui est sorti aussi Psychonauts, qui est un des sûrement meilleurs jeux de plateforme sur PC. D'ailleurs, ils annoncent une suite. Donc voilà. Alors, comme j'ai rien préparé, je vais vous dire le nom du.
C'est bien ça.
Du développeur, voilà.
On prépare bien les émissions.
Il y a un mec sur Windows là-bas.
Alerte Windows, alerte. Du. Bon, en même temps, moi je suis sous Chromebook là.
Ouais, bon.
Il y a un mec, il a Chrome OS, il fait confiance à
oui,
Google.
Alors regarde, si, alors c'est visuel. Hein. Je suis sous Chromebook, mais je viens de mettre Ubuntu dessus. Donc ça va, faute à moitié pardonner.
Faut enlever le logo.
C'est ça.
Donc voilà, tu veux alors, peut-être qu'on meuble.
Alors, c'est fantastique.
Meuble.
Non,
voilà. C'est fou. Alors, donc,
alors, inventaire. J'en profite pour dire que le studio radio a été un peu refait. Hein.
Bah, non, il a été déplacé.
Déplacé, mais surtout que la salle a été... Il y a eu un tremblement de terre, une tornade géante qui a tout enlevé du studio. Ce qui fait que c'est nickel, là, oui, c'est propre.
Hein. Là, c'est bien, c'est
on va essayer de le garder comme ça. Alors, le développeur s'appelle Shiznes. Alors, c'est pas un développeur inconnu sous Linux. Il participe à SteamGull, entre autres. C'est un game développeur à SteamLug. Il fait plein de trucs. Il écrit, il produit, il fait ses propres jeux et il aide effectivement les autres à porter. Chose qu'il a fait pour Double Fine. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ce port-là spécifiquement en interne. Voilà. Si vous allez sur gamingonlinux.com, qui est le site de référence pour tous les joueurs sous Linux, vous avez du coup un article qui parle de ça. Et surtout, dans l'article, il a mis le lien vers une vidéo qui a été faite par Two Player Production pour Double Fine, parce que Double Fine, ils aiment ça aussi, faire des making-of de leur jeu. Et vous allez pouvoir voir comment les mecs ont refait l'ensemble du jeu, comment ils l'ont remasterisé. Parce qu'effectivement, comme tu le soulignes, Gaël, on peut avoir des jeux qui sont remasterisés, on a juste... mis le son en 16 bits au lieu de 8 bits, on l'a passé en 44 kHz 100 et puis on Et puis, si le jeu est en 3D, on a lissé les polygones et puis ça s'arrête là. Là, non, là, il a été entièrement refait.
D'accord. Ouais, voilà. C'est quand même du boulot. Bon, même si peut-être qu'avec les moyens de maintenant, il y a peut-être. Je sais pas si. Non, ça reste quand même.
Alors. Étant donné que j'ai pas pu attendre, j'ai acheté le jeu du coup sur PlayStation, notamment pour y jouer sur PlayStation Vita tranquillement dans ma chambre au fond de mon lit. Et je peux vous assurer que le travail qui a été fait notamment sur les voix est excellent. J'y ai joué beaucoup au casque, les voix claquent vachement bien et c'est surtout ils ont numérisé l'ensemble des bandes audio qui ont servi pour le jeu et ils s'en sont servis pour refaire le son de bonne qualité. Ce qui veut dire que l'on a les voix d'origine. Parce que souvent, quand on a des jeux comme ça où ils refont les voix, ils ont tendance à refaire le casting. Mmh. Et là, c'était complètement inimaginable pour ce jeu. Voilà. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous encourage vivement à l'acheter. Il est en promotion à moins de 10 euros actuellement du fait de sa sortie sous Linux. C'est un excellent jeu et en plus, ça sera bon pour votre culture vidéoludique. Voilà. Qui a joué autour de la table ? Alors Antoine, tu disais que tu l'avais...
Non, pas la remasterisée.
Non, mais la version originale de Day of the Tentacle.
Ah oui, j'ai joué.
Gaël ?
Non. J'ai dû y jouer une fois, mais petit, mais pareil, ça me dit quelque chose, mais c'est le genre de jeu où ça devait pas être chez moi, etc. J'ai dû voir comme ça, mais si tu l'as pas apporté, c'est un jeu un peu long, quoi. C'est pas juste une partie comme ça en passant de Street Fighter 2, quoi.
Je ne connais absolument pas. Ne me regarde pas comme ça, je ne connais
Alors,
pas.
Alors, connaissant Double Fine, ça sortira sûrement sur Android. Ça sera l'occasion.
D'accord, pour ça que tu me dis ça. Ok.
Voilà. Sachant que si vous ne voulez pas dépenser 8 euros et des brouettes pour l'acheter en solde, le prix normal est à 15 euros, et que vous avez une version originale chez vous, alors ça peut arriver, vous pouvez installer l'excellent Scum VM, qui est tous ces jeux, du coup, LucasArts, utilisaient un espèce de moteur spécifiquement pour les jeux Click and Point, qui s'appelait Scum. Et du coup, très tôt, une armée de développeurs qui étaient passionnés par ce genre de jeu, notamment on peut citer Day of the Tentacle, The Dig, les Monkey Island, et tout un tas de Bennett Steel Sky, The Amazon Queen. Pardon. Alors, les deux derniers, Bennett Steel Sky et Amazon Queen, sont disponibles d'ailleurs facilement puisqu'ils sont pas vraiment tombés dans le domaine public. Ils sont en abandonware, mais officiellement. Voilà, et du coup, des développeurs ont refait ce moteur d'exécution entièrement. Et le projet s'appelle Scum VM, et donc vous pouvez jouer à ces jeux à partir de leur version originale, sachant que on restera toujours dans la version remasterisée. Scum VM prend en charge tout un tas d'interpolations compliquées au niveau graphisme pour rendre les jeux un peu plus lisses et un peu plus beaux. On n'arrive bien évidemment pas du tout à la qualité au niveau visuel d'une remasterisation telle qu'elle a été faite par Double Fine. Voilà.
Très bien.
Bon, on va faire une petite pause musicale et on va en reparler ensuite, reparler du projet de Vanda sur
le sondage
sur les GUL, yes, qui était à rendre pour le 4 juillet au plus tard.
C'est ça.
Mais comme chez Girol, on est en retard, tout va bien.
Tout est normal.
Voilà.
Dans notre espace-temps, tout est normal.
C'est ça. En attendant, je vous propose une petite musique de Antonelli, on l'avait pas écouté depuis quand même pas mal de temps, et je vous propose Untitled de l'album No Fit for Human Consumption sur Radio Girol.
You belong to every race, every creed, every color. You belong to every race, every creed, every color. You belong to every race, every creed, every color. You belong to every race, every creed, every color.
Et rebonsoir tout le monde, vous êtes toujours en direct du centre d'animation Saint-Pierre
à Bordeaux,
toujours en retard bien entendu puisqu'il est normalement 8h05, qu'on devrait finir dans 5 petites minutes mais on a commencé avec pratiquement 20 de retard donc ça va, l'un dans l'autre on a le temps. Alors, dernier sujet de ce soir, on va parler du questionnaire des gules. Alors, c'était notre ami Vanda, aidé par notre ami Toussam, qui nous ont concocté pour les 10 ans de Girol un questionnaire qu'ils ont diffusé largement auprès de tous les gules français afin d'avoir un état des lieux sur les gules, qu'est-ce qu'ils proposent, comment ils fonctionnent.
Depuis combien de temps,
et qu'est-ce qu'ils proposent comme activité, à quels besoins répondent-ils?
Pour dire les choses, il a déjà été exploité, hein, ce questionnaire, oui. Puisqu'il y a eu quand même des résultats. Il nous avait donné en détail le résultat de tout ça lors de notre install party.
Tout à fait.
Donc, c'est dans nos tablettes, c'est dans nos archives radio. Voilà. C'était très très intéressant. C'est vrai qu'après, il faut que plus de gules répondent, et notamment le nôtre, ça serait sympa.
C'est ça, parce qu'effectivement, nous sommes le gule qui a, je dirais, qui a inspiré Vanda pour créer le tout, mais on n'a vraiment pas répondu. Alors, sachant que à notre décharge, c'est un peu compliqué avec Girol de pouvoir se poser tous autour d'une table et reposer.
C'est quasiment répondre. Impossible, je
voilà,
pense.
C'est quasiment impossible.
C'est-à-dire que Bongaï, il a commencé à répondre à certaines questions qui sont de l'ordre administratif,
voilà,
on va dire.
Voilà, les plus faciles, ouais.
C'est ça. Et alors après, quand j'ai lu les questions, je me suis dit, mais chacun peut avoir éventuellement une vision différente. Et comme chez Girol, on n'est pas une association, mais un collectif.
Et justement, que l'on assume totalement ce choix, voilà. Et qu'on le porte haut du fait qu'ici, on existe en tant que... chacun peut y aller de sa contribution et personne ne veut parler pour le voisin. Donc il faut, le but c'est de trouver à chaque fois un consensus, ce qui n'est pas toujours très simple.
Donc on va essayer à 4.
On va essayer à 4.
On va essayer à 4, enfin 3 et demi.
Voilà,
trois, un quart.
Ouais, c'est ça.
4.
Ah.
Sachant que de toute façon on va le faire à la radio, mais pour bien faire, il faudrait l'écrire.
Oui, mais au moins, il y aura une trace quelque part.
Il y aura, voilà.
Tu l'as là, le question?
Je l'ai. Alors, est-ce qu'on commence par « Pour mieux connaître votre gule ».
C'était quoi? C'était la combien, ça?
Alors, la première partie, c'est la première partie. 1. Quel est le nom de votre gule?
Oui, mais ça, il a déjà répondu.
Ouais,
je pense qu'il vaut mieux qu'on aille directement aux questions auxquelles on n'a pas répondu.
Alors, la mise en réseau,
9,
est-ce que...
je crois.
8, 9. Alors, les expériences de votre gule. Quelle solution ou service a apporté son gule lors de sa création ?
Une aide à la ménagère de moins de 50 ans.
Moi, je pense que, rappelez-vous, quand on s'appelait encore coagule et qu'on cherchait...
On s'appelait pas.
On s'appelait pas. Du coup, voilà, moi aussi, pourquoi je pouvais pas répondre. Moi, je ne suis arrivé qu'en 2008. Donc,
voilà. Alors, on cherchait à répondre, en fait. Pour moi, c'était comme avoir un forum de discussion, mais en vrai, dans la vraie vie. Voilà, s'entraider.
C'est ça, s'entraider.
À l'époque, c'était beaucoup Ubuntu. Et tout ce qu'on pouvait faire, installer... régler les installs, tout ça, tout ça.
Et de toute façon, on détestait Mandriva parce que c'était nos copains de chez La Bulle à l'époque qui s'en occupaient et on les aimait pas à l'époque.
Ouais, je sais pas, je sais plus, j'ai oublié.
Donc oui, je pense que, qu'est-ce que t'en penses toi Antoine, c'était un forum de discussion in vivo.
Oui, parce qu'il n'y avait pas autant de forums sur Internet avant, donc je pense que c'était surtout... Enfin non, il y avait plus de forums sur Internet avant et, oui, pas, et voilà, pas vraiment vrai. Du coup, c'était l'occasion de concrétiser des rencontres pour remplacer un peu le forum, passer plus offline et alors, online.
Sachant que les premiers mois de l'existence de Girol, on était créé, rappelez-vous, hein, au mois d'avril, mais il y a eu beaux jours, barbecue, fiesta, port de Bordeaux, tout ça. Donc c'était aussi un besoin de faire la fête, d'être ensemble pour parler du logiciel libre.
Mmh. Voilà. C'est grâce à ça que j'ai appris à faire des sushis.
Tout à fait.
C'est beau.
Alors, la question numéro 10. Depuis votre création, quelles sont les trois questions les plus fréquemment posées par les participants ?
Alors là, c'est une question un peu floue pour moi. Alors... Parce que je ne vois pas trop de questions récurrentes. Les gens viennent pour trouver de l'aide, donc ça dépend de leur problématique.
Moi, j'avais effacé parce que du coup, le fichier qu'avait envoyé Thomas, il y avait les réponses d'un autre gule d'Agen ou je ne sais pas quoi, déjà. Mais c'est vrai qu'il y en a une qui était dedans, dans la réponse, c'était « Mais comment les gens gagnent de l'argent, du coup, si c'est libre ? Enfin, si c'est gratuit ?»
Ah oui, ça c'est vrai que c'est en musique, c'est toujours la question qui revient pour la musique libre. Donc pourquoi pas.
C'est ça. Moi je dirais pourquoi. La question qui revient beaucoup, c'est comment je fais fonctionner mon machin truc bidule sur Ubuntu 14.04.
Oui, voilà. Oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de questions liées au fonctionnement même de certains matériels. Voilà. Et du coup, un soutien technique qui est demandé derrière.
Oui, c'est souvent des questions techniques, puisque les gens qui viennent vers nous, en conscience, on va dire, pas forcément pour un atelier, pour découvrir, etc., mais ils viennent avec leur machine, ils viennent avec leurs soucis techniques. Voilà. Donc, on ne peut pas vraiment répondre d'une manière brute de pomme à cette question.
C'est ça. On est aussi pareil, j'ai l'impression, le cul entre plusieurs chaises et on fait plusieurs choses à la fois, dont de l'aide aux débutants. On essaie de mener des ateliers, parfois pour débutants, mais parfois aussi pour gens confirmés ou même pour professionnels. Et on a aussi autant de projets que l'on a de Giroliens. On a des projets, par exemple, les ateliers Clio Labix qui sont menés par Girol et par des gens que l'on ne voit pas forcément les mardis ici au centre d'animation. Donc, on ne peut pas avoir une vision assez globale, mais je pense qu'on on peut s'entendre sur...
Après, sur les projets, il y a d'autres questions, justement, les questions suivantes.
C'est la question numéro 11.
10, 11, je ne sais plus.
Alors, ces trois dernières années, quelles sont les trois questions ? Ça, c'est ça. Citez trois de vos projets phares menés depuis la création de votre GUL et qui ont reçu un retour positif.
Bon, déjà, il y a la web radio, puisqu'on l'a quand même exportée dans pas mal d'événements.
C'est ça.
On nous a été demandé, notamment par les médiathécaires, bibliothécaires.
Voilà, en espérant qu'un jour, ils nous rappellent, parce que ça nous a fait très, très plaisir.
Voilà, mais on l'a déjà fait. Enfin, on l'avait fait dans le cadre de l'Association des médiathécaires de France. Et puis là, ça a été refait dans deux bibliothèques de Bordeaux pour d'autres sujets, on va dire. Donc, c'est vrai que la web radio...
Oui,
ça marche pas mal.
Voilà, les install parties qui nous ont été... On avait arrêté d'en faire et nous ont été redemandées, en fait.
Oui, les install parties, alors ici ou déportées. Souvent, on a été demandé pour ça par le biais de La Bulle, notamment, à un moment donné.
Voilà, mais c'est quelque chose qui nous a été demandé. Et alors, les choses qui ont reçu un bon retour, mais pareil que l'on ne fait plus du tout et qu'on a commencé à refaire, c'est des ateliers qui nous sont demandés.
Oui, les ateliers. D'ailleurs, c'est reparti un petit peu là. On en fait maintenant aux install parties beaucoup plus.
Mais c'est au long de la. Voilà,
et puis dans l'année. Et puis là, on a des ateliers qui vont repartir. Je pense, c'est bien parti avec.
Vim.
voilà, Vim par François-Xavier, Pix, Volou. Et par le, voilà, je pense que ça, c'est... On peut parler de ça. Après, je n'ai pas d'autres idées qui me sont venues sur les projets phares. Les... En fait, on a... En projet phare, moi je vois surtout la radio, mais il y a peut-être d'autres trucs qui m'ont échappé.
Bah, la radio et une girl party.
Pizza party.
C'est ça.
Concert party.
Voilà, mais en fait, du coup, on a aussi les concerts, mais tout ça est
voilà,
lié à la radio
tout ça,
quand
c'est
même.
Lié à, et à, oui, aussi à l'install party.
Et à l'install party. Alors, je vous propose qu'on passe à la question numéro 13. Quels sont les freins majeurs à l'adoption du libre que vous avez constatés ? Par exemple, manque de temps, de groupe de pression, manque d'accompagnement au changement. Améliorer sa communication. Alors moi, je pense que c'est un peu tout. Je dirais aussi...
ça dépend des gens, en fait.
Voilà, ça dépend des gens.
Voilà.
Il y a le cas, par exemple, de professionnels qui vont avoir besoin de quelque chose qui... En fait, ils vont pas avoir le temps de se reformer longuement sur
tout
un outil.
Fait.
Mais pourtant, ils ont la volonté, des fois. En fait, c'est vraiment... c'est déjà quand ils sont venus jusqu'à nous voir, il y a quand même une volonté qui est là, je pense.
C'est sûr, ouais, ouais. Mais je vois, par exemple, Luzel qui cherchait un logiciel de montage...
Audio
et éventuellement et vidéo, enfin bon, logiciel de montage et qui, pour des raisons pratiques, n'est pas passé ou n'a pas pour l'instant choisi complètement le libre parce qu'elle a des contraintes. Donc, voilà.
Il y a aussi, du coup, un problème que Girol essaie de... Moi, je pense que Girol essaie de régler, c'est... quand on sort un peu de la norme, on sort de Wintel, on essaie de passer à autre chose, on se retrouve très vite perdu parce que quand on avait le copain de la belle-sœur, du beau-frère du machin qui s'y connaissait en Windows et qui pouvait filer un coup de main en cas de problème, quand on a Linux, le cousin machin du beau-frère de bidule,
il sait pas,
et puis il dit oh, t'as qu'à installer Windows parce que Linux c'est de la merde, et du coup un manque cruel d'accompagnement en cas de problème et de vers qui se tourner. Mon ordinateur tombe en panne, le Windows tombe en panne, je vais à la Fnac, ils le prennent, ils me le réinstallent, ils me le renvoient, et puis il est patient garanti, on n'en parle plus. Sous Linux, c'est un peu délicat, et c'est, je pense, l'une des raisons d'exister d'un collectif comme le nôtre, c'est que les gens puissent à un moment donné trouver quelque part une aide. Et non pas une aide sur Internet à dire ah ben, tu copies-colles les lignes dans ton terminal, mais ici, trouver des vrais gens qui puissent donner des vraies réponses.
Mmh. Plus, sachant que l'idée, général, c'est aussi d'amener les gens à être autonomes et pas de les assister en permanence.
Oui, voilà, leur expliquer les étapes qu'on a réalisées. Donc là, on a sauvegardé les données pour pouvoir réinstaller le petit programme qui permet de démarrer sur le bon noyau, etc. Donc, souvent, on essaie de leur expliquer aussi la démarche. C'est pas juste, bon, vas-y, file-moi, je m'en occupe et puis je te le rends. Non, c'est... Moi-même, souvent, j'essaie de faire manipuler les gens le temps possible. Je ne touche même pas la souris. Je leur dis, allez-y, tapez ça, rendez-vous dans...
Oui, je pense que c'est la meilleure méthode.
Je pense que pas forcément. Ça dépend des gens que l'on a en face.
Après, oui, je pense que ça... Bon, bien sûr, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face, mais... Bon, c'est vrai que plus on les fait faire, plus
si la personne a envie de
main,
voilà,
quoi,
si on sent que la personne a envie de prendre en main, mais des fois elle a pas justement.
Après, sur des problèmes complexes, sur des problèmes qui nécessitent une technicité que l'on sait que l'on a et que la personne n'a pas besoin d'avoir, sauf à l'instant T pour résoudre le problème en question. Effectivement, c'est sûr que on va peut-être faire une balance entre les deux et dire bon, je fais le truc et puis voilà quoi.
Je vous propose qu'on passe à la question numéro 14.
Oui.
Alors, quels sont les éléments mobilisateurs que vous avez constatés ? Par exemple, animer sur une nouvelle release, un sujet d'actualité, inviter un entrepreneur, un chercheur, s'associer à d'autres associations et communautés OpenStreetMap, Ubuntu.fr, etc.
Bah oui, tout ça.
Déjà, il y a les nouvelles releases, ça c'est certain. Parce que ça a été pendant longtemps, le calendrier de Girol était un peu basé sur...
Les releases Ubuntu, oui.
Mais j'ai l'impression que ça s'est quand même essoufflé.
Disons que ce qu'on a constaté au fur et à mesure, c'est que ça devenait de plus en plus facile d'installer Ubuntu pour beaucoup de gens. Voire même, certains ordinateurs sont livrés directement avec Ubuntu. Donc, par conséquent, c'est pas sur l'installation qu'on va faire du support, ça va plus être sur du...
La maintenance.
Après. Voilà.
Moi, je dirais que organiser un atelier avec quelqu'un d'extérieur marche en général très bien. surtout avec nos canaux de communication comme le Meetup, quand on annonce un atelier sur Vim, mm-hmm. comme il s'est passé la semaine dernière, oui. on a eu quand même des gens qui ne viennent pas habituellement ou pas oui, régulièrement.
Oui, effectivement. Je suis juste passé malheureusement, mais il y avait quand même pas mal de monde.
Et du coup, c'était déjà comme ça nettoyé ou pas encore à ce moment-là?
Oui, ça a été fait la semaine dernière.
Du coup, là, c'est l'occasion. Enfin, là, ce serait parfait pour accueillir des gens. C'est rangé. C'est...
Mais il est prévu avec François qu'on installe peut-être du double boot ici en fait sur les machines. Donc on aurait 4 machines en double boot, macOS, Linux ou des machines virtuelles Linux.
C'est pas mal.
Ça peut être aussi bien. Donc c'est prévu.
Donc voilà. Bon, pour revenir à la question.
Donc
les éléments mobilisateurs.
Bah, oui, après, on a eu aussi des demandes de participation à l'Open Bidouille Camp, donc ça en fait partie. Oui. On a eu des interactions dans les deux sens, c'est-à-dire nous, on demande à des gens, par exemple, de faire des ateliers OpenStreetMap, comme c'est cité dans la question, et inversement, nous, on nous demande de venir sur Open Bidouille Camp pour parler de comment recycler un vieil ordi. Voilà.
Mais en général, si on parle in situ, quand on a effectivement une personne extérieure qui vient animer des ateliers spécifiques, si on parle de OpenStreetMap avec Frederico Rodrigo, à chaque fois on fait carton plein. Guillaume, comment il s'appelait Guillaume
OpenSMTP.
Voilà, qui nous avait fait un atelier qui était pourtant très pointu. Il avait drainé pas mal de monde.
On a même eu du très très pointu avec Gnunet.
Voilà, Gnunet. Quand Antoine, tu as fait des ateliers sur le fonctionnement d'Internet, il y a eu aussi. On arrive à amener un peu plus de monde, à mobiliser un peu plus de monde des deux Girolliens pour ce genre d'atelier.
On a même eu quelqu'un. Moi, j'étais pas là, j'avais pas vu. C'était dommage, mais la personne qui développe Shinken Monitoring.
Oui. Tout à fait.
Qui est de la région, du coup.
Les ateliers Python, apprendre à programmer en Python, fait par Emmanuel, ou encore les ateliers d'Emmanuel sur l'assembleur avaient drainé quand même pas mal, un petit peu de monde aussi.
Oui, aussi.
Qui sont pourtant des ateliers très pointus. Donc, je pense que, voilà, des ateliers avec une personne respectée dans son domaine nous amène, mobilise facilement.
Oui, c'est vrai.
Pourtant, on n'a pas de thunes à l'enfiler.
C'est ça. Mais en même temps, on habite une grande ville, donc c'est beaucoup plus simple.
C'est vrai, c'est plus facile.
Alors, on passe à un autre chapitre en 2016. Si vous regardez en arrière et que vous avez ce que vous avez accompli, quelles sont les phrases majeures que vous notez depuis le lancement de votre GUL?
Les phases.
Les phases, oui. Mais pardon. Pas les phrases, les phases, autant pour moi.
Les phrases, on l'a déjà fait.
Bah, peut-être que ça peut se résumer la fréquentation. Enfin, je sais pas, au début, vous étiez combien?
On était beaucoup, en fait. Hein.
Au début, on était quand même beaucoup. Après, c'est vrai que ça bouge. Quoi. C'est un peu, on est toujours un peu le même. On va dire qu'il y a un peu toujours le même noyau. Voilà. Après, je ne suis pas sûre que ce soit le sens de la question aussi.
Peut-être pas.
Alors, les phases, les différentes phases de...
Bah, attends, si
en fait, on évolue avec aussi l'évolution technique et technologique. Parce que, par exemple, au début, on c'était les ordis, les portables, puis point barre. Et sont apparus les smartphones, les tablettes. Donc, sont apparus aussi d'autres sujets d'intérêt et de questionnement.
Je pense que si on regardait les affiches en fait, des Girol Party, ça résumerait pas mal sur quel...
Après, il y a aussi des sujets qui ne sont pas des sujets purement techniques et informatiques, puisque on traite aussi de culture libre. Donc ça, c'est quand même arrivé assez vite, malgré tout.
Ça, oui, c'est arrivé.
Je pense que la phase de développement du collectif, c'est ça. C'est que si au départ, c'est ce que l'on met mettre dans notre synopsis, si au départ, on était basé sur le logiciel libre, on parlait d'Ubuntu et plus spécifiquement même Ubuntu, on était quand même tous très très Ubuntu.
On était tous Ubuntu quasiment.
Avec l'avènement avec l'arrivée du projet radio initié par Antoine, on a très vite passé le cap de la culture libre et on a commencé à parler de musique libre par ta présence Isa, puisque tu es musicienne.
Et surtout que j'étais beaucoup dans l'asso musique libre à ce moment-là.
Que tu étais dans l'asso musique libre et on parle et on est, enfin le collectif est devenu un porte-étendard de la philosophie du libre en général.
Voilà, c'est plus vaste. On s'est développé de manière beaucoup plus étoffée par rapport
et je pense
différents domaines.
À l'image de la communauté du libre qui elle aussi est partie du logiciel et qui est très dans les années 2005 et qui très vite. Est passé.
D'où nos liens avec le Labix aussi, qui fait dans le hardware, lui. Donc voilà. Imprimante 3D et compagnie. Donc c'est vrai qu'au final, on a beaucoup. Ça s'est étoffé, on va dire, au niveau des domaines de compétences. Et donc des gens, et donc de tout ça.
Alors, quelles sont les 5 évolutions majeures dans la communauté du libre que vous retenez depuis 10 ans ?
Ça fait beaucoup. 5. 5 ?
Oui, 5.
Je passe mon tour.
Ubuntu, c'était une évolution dans le sens, ça a été la distribution grand public.
Je suis d'accord, oui.
Ensuite,
moi, je dirais Firefox, peut-être.
Ouais, aussi.
Qui a été un des grands moteurs qui a vraiment été utilisé par le grand public.
VLC,
j'allais VLC. Dire aussi VLC. Ouais.
VLC, sûrement l'un des logiciels libres les plus installés au monde.
OpenOffice, aussi.
Oui, en tant que Firewall.
En tant que Firewall, bien sûr. C'est ça va de soi, bien sûr. C'est évident.
Moi, je dirais, dans les communautés, se battre contre toutes les lois qui ont été pondues depuis 5 ans.
Il y en a eu des caisses et des caisses. Quoi.
Et justement, avec notre chère et tendre Christine Albanel, que nous n'oublierons jamais.
Jamais.
En effet. À toutes les lois de plus en plus dures et sécuritaires. Et maintenant, regardez Orange qui annonce que si on veut mettre en place la 5G, il faut abandonner l'idée de la neutralité du net.
J'ai vu passer un truc, mais très, très furtivement.
Mais on va abandonner l'idée de la 5G, alors hein
C'est parce que par le design, voilà, pour la priorisation des flux, tout ça.
Oui, tiens donc. Comme c'est bizarre.
À chaque fois, en fait, à chaque techno, ils essaient de le
faire passer. Ils essaient de refourguer le machin.
Ouais, mais avec nos pipeaux au gouvernement, ils vont y arriver.
Ouais.
Ne soyons pas défaitistes, mais quand même.
Mais oui.
Donc, on était à combien là ? Non, c'était quoi les 5 qu'on retiendrait
L'évolution des distributions Linux en général.
Voilà. Avec l'arrivée d'Ubuntu.
Voilà, je dirais que ce qu'on a constaté aussi, c'est que, effectivement, Linux est devenu le premier système d'exploitation grand public au monde, de par Android, tout simplement.
C'est aussi le premier sur les supercalculateurs maintenant.
Voilà, donc we won.
C'est bon, on a gagné.
Mais à quel prix ?
Mais à quel prix, en effet, parce que Android libre, ça commence à être un hiatus.
Après, l'une des évolutions qui, moi, je pense, n'est pas bonne, c'est le déplacement du combat. C'est-à-dire que le combat ne se fait plus sur le logiciel libre, parce qu'on peut, d'une certaine manière, dire que l'on a gagné. Les entreprises les plus riches du monde utilisent et participent à l'essor du logiciel libre, mais c'est déplacé
sur
les données.
Oui, mais parce qu'en fait, on n'est plus sur de l'open source. Je pense que le libre s'est fait un peu bouffer par l'open source. Et pour moi, c'est surtout ça, peut-être la problématique majeure. C'est-à-dire que quand on écoute Stallman aujourd'hui, c'est pire que quand on a commencé, quoi, il y a 10 ans. Parce que bon, on est surveillé de partout avec les smartphones, etc.
C'est là où je voulais en venir.
Malgré la présence des logiciels entre guillemets libres, ça ne nous rend pas plus libres. Au contraire, on est piégé par la surveillance des différents micro-logiciels.
Voilà, mais du coup, le déplacement se fait une partie sur ce terrain-là. Avec chez Girol, on essaie beaucoup de prodiguer justement les conseils, de promouvoir l'auto-hébergement.
La magie de l'informatique dans les nuages, les gens pensent que du coup, c'est quelque part. Mais c'est pas. En fait, non, c'est sur les serveurs de quelqu'un. C'est pas dans les nuages.
Voilà, il y a un côté, c'est vrai, un peu abstrait, un peu éthéré. Mais bon, même si on en fait prendre conscience et si on est soi-même conscient, ça ne veut pas dire qu'on est entre guillemets sauvé, puisqu'il y a tellement de choses à contrôler ou à enlever, le contrôle externe, on va dire, tout ce qui nous épie, nous surveille, etc., que c'est quasiment impossible à faire pour, comme tu disais, la ménagère de moins de 50 ans. Quoi. En moins de lui livrer des solutions toutes faites qui, pour l'instant, n'existent pas vraiment. Quoi.
Si, il y en a, mais disons qu'il faut toujours quelqu'un qui soit suffisamment aguerri
au niveau
technique.
Oui, c'est quand même... Par exemple, si on parle de la fameuse distrib Tail, c'est ça ? Ça fonctionne que sur une clé USB, tu ne peux pas la modifier. Enfin bon, c'est quelque chose qui est fait pour par exemple, pour les journalistes ou pour les gens comme ça.
Qui se connaissent, qui sont avec le Wi-Fi dans un hôtel.
Mais ce n'est pas fait pour...
Ça, c'est une facette du problème. L'autre facette, c'est effectivement les données personnelles où on a des choses qui évoluent. On a YouNoHost, Cozy Cloud, mais il faut quand même...
Cozy Cloud qui peut-être pourrait finir par se faire subventionner un peu à la place du cloud souverain. comme
LOL.
Mais qui avance pas mal, j'ai l'impression, et du coup, avec un ancien membre important de la fondation Mozilla. Donc,
c'est ça. Parce que le clou de souverain, comme dirait Renaud, le roi des cons, il est sur son trône. Et le clou de souverain, il est vraiment sur son trône. Hein.
Donc bon, oui, va. Bref, effectivement, il y a des questions qui ont changé avec l'environnement et auxquelles les logiciels libres ne peuvent pas forcément répondre en tant que tels. Quoi. C'est une philosophie, c'est une prise de conscience, c'est plein de choses. Quoi. Donc c'est, ça se déplace un peu là-dessus maintenant.
Donc c'est notre militantisme aussi s'est déplacé de je milite pour promouvoir ma distribution libre, c'est plutôt je milite pour essayer de montrer aux gens que non, tout ce qui est gratuit, c'est parce qu'il y a un gros problème.
Et puis lutter contre des choses qui sont devenues certains essaient de faire devenir comme des idées reçues, des idées ancrées comme gratuit contre publicité, par exemple. La plupart des gens ne trouvent rien à redire à ça, quoi. Voilà, temps de cerveau disponible, c'est pas un problème, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles il faut sans arrêt lutter contre les idées du style on n'a rien à cacher, blablabla.
Alors, question suivante. Quel élément ou chiffre illustre pour vous la force du libre ces dernières années ?
Quel élément
ou chiffre illustre pour vous la force du libre ces dernières années ?
4, comme la version du noyau Linux.
Ouais, moi je dirais ça aussi, parce qu'on
est resté longtemps
chiffre,
sur le 2 quand même.
Pourquoi pas,
10 ans, 12 ans sur le 2 ?
Oui, mais en fait, parce que ça, c'est, je pense, c'est un élan général dans le logiciel qui veut que l'on numérote pour que ça aille plus vite, pour que justement l'utilisateur ait l'impression que l'évolution est rapide. Mais in fine, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution entre le 2.6 et le 4.5 je crois.
Mais bon, il nous faut un chiffre, donc on donne le chiffre. Non, voilà, 4, ça va.
On rajoute un petit 2 derrière et c'est parti.
Non, c'est 25 ans du premier noyau Linux aussi. Année, il me semble.
Oui, je crois.
Bon, je vote pour ça aussi, ça me plaît.
Alors, parce que nos communautés partagent, présentez-nous ici un de vos bons souvenirs dans l'aventure du libre. Un témoignage, un encouragement, une reconnaissance, un projet qui a grandi, notre meilleur souvenir.
Pizza.
Oui, j'allais le dire. Les pizzas parties
pendant la radio.
Qu'est-ce qu'un même. Alors, il faudra qu'on déterre ce truc. Mais
je pense qu'on peut citer Flo, parce que Flo, avec son ordinateur Windows Vista aussi, c'était pas mal. Hein.
En effet.
Tu es tué cette année-là.
C'était beau.
Alors, les pizzas de la rue Saint-Projet, enfin de la place Saint-Projet
C'est un peu cryptique hein, pour les gens de l'extérieur. Hein.
Mais
tant pis pour vous.
On fera un best-of et puis on rediffusera du coup.
Je pense qu'il y a même des punchlines à ressortir de ce.
Mais aussi, on a quand même eu un sacré nombre de fous rires à la radio, à chaque fois pour des problèmes techniques ou parce qu'on était crevés ou les deux. Et la dernière en date était quand même vraiment épique. Donc voilà, ça fait partie des souvenirs, mais c'est vrai que moi pour la radio, il y en a quand même pas mal quoi.
Mais en fait, c'est parce que c'est notre projet phare en fait.
Oui, voilà, c'est vrai.
Et puis c'est parce que c'est rigolo aussi. Voilà, faire fermer la gueule à tout un ensemble de geeks énervés à côté pour qu'on puisse entendre, leur demander de pas télécharger.
Voilà.
On a plus de débit. Les
écrans bleus, parce qu'au début, la radio, elle n'était pas sous Linux. Et on en a eu quand même des jolis écrans bleus.
C'est ça.
The blue screen of the death.
Maintenant, on a des X-Run. D'ailleurs, on peut les compter. Hein. Il y en a eu 11.
Bon.
Mais c'est parce que je suis en train de naviguer sur Internet en même temps que je diffuse tout ça. Bon, eh bien, on a fini de répondre oralement aux questions.
Bon, ben, on va dire à Vanda, voilà, le fichier audio est là. Tu peux trouver les réponses.
Je pense qu'elle viendra plus jamais nous voir. En fait,
mais au moins, c'est fait. Bon,
il va falloir le rendre à notre manière.
Normalement, elle s'est installée entre Bordeaux et Toulouse pour être près de Bordeaux et près de Toulouse, pour être aussi un peu proche de nous. Et je pense que quand on va lui envoyer ça et lui dire démerde-toi, elle va directement aller à Toulouse. Elle va dire je ne veux plus jamais voir un gyrolien de ma vie.
Bon, on va essayer de dépiloter ça.
Bon, en attendant, on va vous souhaiter à tous une bonne soirée. Isa a quelque chose
à dire, hein, puisque bon, tout à l'heure, Antoine a salué son ami du Nord. Bien, moi, je voudrais saluer Shangri-La, non, mon ami du... Bref, du sud aussi, ouais, peut-être bien. Du côté de Lyon. Donc Shangri-La qui nous écoute, hein, que je viens souvent voir du côté de Dogmasique. Et notre ami The Super Geek qui était sur Linux MAO aussi, qui écoute là l'émission.
Ce qui veut dire qu'avec le coucou qu'a fait Antoine à son pote du Nord, on a 3 auditeurs aujourd'hui.
C'est énorme.
Merci les gars. Merci, merci. Nous, on se donne rendez-vous en septembre. Et alors, comme c'est loin, on va regarder la date sur le calendrier. Hop. Et ça sera le 13 septembre. Ça ne sera pas un vendredi, ça sera un mardi. Mais on sera toujours là. Magnifique. Avec ou sans chat noir.
C'est beau.
On verra. Allez, on va vous souhaiter à tous de bonnes vacances si vous partez. Profitez bien, la plage, tout ça. Évitez les coups de soleil parce que ça fait mal. Hein. Et puis, c'est pas bon pour la peau, paraît-il. Et bon mois de juillet et puis bon mois d'août à tous.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.